Ce message vous est proposé par Church Team Ministries International Île-Maurice. Que le Seigneur vous bénisse.
Je me sens encouragé ce matin par l'œuvre du Seigneur, par sa parole. Et quand nous nous rencontrons comme cela, c'est merveilleux d'entendre la vérité de l'Évangile. Et l'Évangile ne nous condamne jamais, mais plutôt nous encourage. Nous encourage à avancer, à continuer, malgré nos faiblesses, nos manquements, nos bêtises. Mais le Seigneur, il connaît nos cœurs. Ce qui est important, c'est qu'il ressente le vrai désir de notre cœur, de grandir, de devenir de plus en plus comme lui, et de ne pas rester tel que nous sommes, mais d'avoir un but dans la vie, une vision, qui est celui du plan de Dieu dans notre vie. Nous avons parlé des œuvres de la chair, nous avons parlé de la tentation, nous avons parlé de la chute, de la restauration. Et le Seigneur nous encourage. Et tout cela, mes frères et sœurs, nous emmène à une communion fraternelle dans la liberté. Une relation avec Christ, une relation avec nos frères et nos sœurs. Peut-être qu'on pourrait ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Vous savez, quand vous cherchez le Seigneur et que vous voulez davantage du Seigneur pour votre vie, le livre des Actes est idéal, car c'est un exemple de la vie du chrétien. Les actes, le livre des Actes, c'est les actions de la part des disciples du Seigneur au commencement de l'Église, animés par le Saint-Esprit. Animés par le Saint-Esprit pour les conduire. Et quand je lis ce livre des Actes des Apôtres, même au chapitre 2, nous voyons les premières conversions dans l'Église. Première conversion. Au verset 37, la Bible nous dit, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ?» Il y avait une grande conviction dans leur cœur. Une conviction de péché, une conviction qu'il y avait une nouvelle vie pour eux. Ils ne voulaient pas continuer dans cette même vie. Donc ils demandaient à Pierre, « Mais qu'est-ce qu'il nous faut faire ?» Et l'apôtre Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptaient à sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est une vie extraordinaire. que les chrétiens vivaient au temps de la première Église. Ils pouvaient vivre ensemble sans se battre, sans avoir des divisions parmi eux, s'accepter, accepter les uns les autres dans cette communion, partager ce qu'ils avaient, prenaient le repas ensemble, ils grandissaient ensemble, ils étaient tous dans le même lieu, ils se retrouvaient tous les jours, et il y avait une grande liberté au milieu d'eux. Il y avait une liberté extraordinaire d'accepter l'œuvre de Dieu dans la vie de chacun. C'était tout nouveau pour eux. Nouveau, c'était une nouvelle vie. Même qu'étant juif, au fait, l'apôtre Pierre s'était adressé aux juifs. C'était sa première prédication. C'était aux juifs de Jérusalem, qui, comme l'on vient entendre, connaissaient la loi, mais n'étaient pas capables d'obéir à la loi, n'étaient pas capables de s'aimer les uns les autres. Ils étaient religieux, ils étaient sous de multiples lois qu'ils avaient à observer. Mais désormais, par cette nouvelle conversion, une nouvelle vie qu'ils n'avaient jamais pu vivre auparavant, de se retrouver ensemble dans la communion fraternelle, dans le partage du pain, dans les prières. Ils s'entraidaient. Ils étaient un. Il n'y avait aucune condamnation parmi eux. Il n'y avait aucun jugement de la part de l'un contre l'autre. C'était complètement une nouvelle vie pour eux. Les apôtres, dans ce temps, qui avaient reçu la révélation de l'Évangile, n'oubliez pas que Jésus avait passé 40 jours avec eux, les enseignant des choses qui concernent le royaume de Dieu. 40 jours après sa résurrection, il avait passé du temps avec ses apôtres, leur enseignant les choses qui concernent le royaume de Dieu. Ils avaient reçu une révélation de Jésus, une révélation de la croix, une révélation de l'Évangile. Leur vie avait été transformée, ils étaient donnés complètement. Et c'est devenu non seulement pour eux une nouvelle vie, mais pour tous ceux qui étaient convertis, tous ceux qui avaient donné leur vie, tous ceux qui avaient accepté Christ dans leur vie, qui avaient reconnu leur péché. Et maintenant, de vivre ensemble était une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Et cela était possible pour eux, parce qu'ils avaient compris la grâce du Seigneur. Ils avaient compris que même qu'ils chutaient, ils acceptaient leurs frères et leurs sœurs tels qu'ils étaient, parce qu'ils étaient tous sur le même chemin. Ils étaient capables de s'encourager, de s'aimer, de donner leur vie les uns pour les autres. C'est extraordinaire ce qu'ils ont vécu. Ils se partageaient tout ce qu'ils avaient. Ils vendaient leurs biens et partageaient entre eux ce qu'ils avaient. Mes frères et sœurs, seul l'amour de Jésus-Christ peut emmener les gens à faire ces choses. Le monde est rempli d'orgueil, d'hypocrisie, chacun pour soi, et nous voyons que la corruption a fait que chacun puisse pouvoir prospérer davantage dans la malhonnêteté. Mais on voit ici que des hommes, des femmes qui étaient prêts à donner leur vie les uns pour les autres. Ce n'était pas un langage. Ils vivaient des choses réelles, comme on a parlé hier. La parole de Dieu devient réelle pour ceux qui prennent le chemin de la croix et qui sont prêts à perdre leur vie, qui sont prêts à se donner à Jésus-Christ, qui sont prêts à subir les persécutions de la vie, les fausses accusations, mais profondément dans leur cœur. Il y avait une liberté dans leur communion fraternelle. Il y avait une liberté dans leur communion avec le Seigneur. Ils savaient qu'ils pouvaient s'adresser au Seigneur n'importe quand.
Il n'y avait aucun obstacle en eux et le Seigneur. Ils étaient faibles, il y avait des manquements, ils chutaient. Mais Dieu les restaurait. Dieu restaurait leur cœur. Ce n'étaient pas des hommes et des femmes qui vivaient sous la condamnation. Ils se voyaient tomber les uns les autres. Mais ils étaient sincères. Il n'y avait pas d'esprit de condamnation, d'accusation sur leur vie. Parce qu'ils étaient sur le chemin de la croix. Ils avaient accepté de chacun prendre sa croix. Et je dis toujours, quand on accepte de prendre sa croix, on ne peut pas emmener un jugement sur la vie de quelqu'un. Parce que nous sommes nous-mêmes vulnérables et nous chutons nous aussi. Et de même que le Seigneur restaure mon frère, il me restaure de même. C'est pourquoi sur ce chemin, on s'accepte, on vit ensemble. Quand je parle de vivre ensemble, je ne parle pas de vivre dans une communauté où tout le monde est enfermé. Je parle d'une communion fraternelle quand on se voit, quand on se rassemble dans l'amour du Seigneur et qu'on peut le louer, l'adorer, écouter sa parole et vivre ensemble et se donner la vie les uns les autres. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est l'esprit de la nouvelle alliance qui régnait. Ils se pardonnaient. Ils se repentaient les uns envers les autres. Ils étaient tous comme nous, dans la chair. Certainement qu'il y avait des conflits, il y avait des problèmes entre eux. Mais rien ne les arrêtait. Parce qu'ils étaient sur le chemin de la croix. C'était facile pour eux, quand je dis facile, c'était normal pour eux de se repentir. Normal pour eux de se pardonner les uns les autres. Cette communion fraternelle était dans une unité de l'esprit. Dans un esprit, dans l'esprit de Christ. Et c'est encourageant de voir que seule la chrétienté peut emmener ce genre de vie. C'est pourquoi Jésus est le seul sauveur. Il est le seul qui peut changer nos vies, qui peut nous emmener dans une liberté de l'esprit, dans une communion fraternelle vraie. Vraie. Quand les gens marchent sur le chemin de la croix, quand ils se retrouvent, on sent qu'il n'y a pas de barrière. On sent qu'il n'y a aucune barrière entre nous dans nos cœurs. Malgré qu'on conçoit nos faiblesses, nos manquements et tout ce que nous sommes, mais dans l'esprit, c'est clair. Dans l'esprit, c'est clair. On ressent cela. On ressent. C'est pourquoi dans l'Église du Seigneur aujourd'hui, la première chose qu'on doit ressentir quand le Seigneur est présent, pardon, quand il y a l'Esprit de Christ au milieu de nous, c'est l'amour parmi les frères et les sœurs. Et ce n'est pas quelque chose qu'on parle, c'est pas un langage, c'est vrai. C'est quelque chose de vrai, on le ressent. Et je suis sûr que si nous étions présents au temps de la première église et que nous vivions parmi ses frères et ses sœurs, nous ressentirons. Nous aurions ressenti l'amour du Seigneur, ressenti la réalité dans la vie de ces chrétiens. Malgré leur faiblesse, leur manquement, il y avait un esprit de communion fraternelle. C'est extraordinaire. Et mes frères et sœurs, quand cet esprit règne au milieu de nous, la croissance est possible. On grandit. On ne demeure pas les mêmes. Ces chrétiens grandissaient dans le Seigneur. C'est comme ça qu'on voit qu'il y a des chrétiens qui ne grandissent jamais. Ils ne grandissent jamais. Parce qu'ils ont décidé de se rebeller contre le Seigneur, refuser de prendre le chemin de la croix, refuser de perdre leur vie. Ils ont préféré garder leur vie. Celui qui garde sa vie, il va la perdre. Il va la perdre. Et les chrétiens qui ne grandissent pas, vous savez exactement sur quel chemin ils sont. Exactement sur quel chemin ils sont. Ils demeurent toujours pareils, ils sont toujours dans toutes sortes de problèmes. Il y a toujours de la rébellion, il y a toujours de l'insoumission envers le Seigneur. Il y a toujours des choses. Il y a tout le temps des problèmes. Ils n'arrivent pas à décider de prendre le chemin de la croix. Et quand je lis ce livre des Actes des Apôtres, je réalise que ces chrétiens grandissaient. Et ils pouvaient communier avec le Seigneur. À chaque fois qu'il y avait des problèmes, des persécutions, ils se réunissaient, ils adressaient au Seigneur leurs cris, leurs prières, leurs supplications. Et Dieu répondait. Il n'y avait aucune barrière. Aucune barrière. Parce que leur cœur était en paix, réconcilié avec Dieu. Non seulement ils ont été justifiés, mais ils étaient en paix avec Dieu. À n'importe quel moment, ils pouvaient s'adresser au Seigneur. Une communion avec Dieu, vraie, réelle. Ils ne ressentaient pas d'obstacle entre Dieu et eux. Pourquoi ? Parce que quelque part, ils ressentaient le pardon du Seigneur. Ils ressentaient que leur vie était claire. Et même qu'ils avaient chuté la veille et qu'ils avaient goûté à la restauration du Seigneur dans leur vie, ils pouvaient s'adresser au Seigneur, ils pouvaient crier à Dieu, ils pouvaient parler au Seigneur, ils savaient que Dieu entendait. Ce n'est pas une prière religieuse, ce n'est pas une prière simplement parce que on doit prier. Mais il y avait une communion entre le Seigneur et eux. Et moi, je crois que c'est la chose dont les chrétiens manquent le plus. Ils savent qu'ils doivent prier. Ils savent même comment prier. Comme la parole de Dieu nous enseigne, on prie le Père dans le nom de Jésus. C'est tout technique, c'est tout des principes, des techniques, comment faire les choses. Mais je crois que la chose réelle, c'est que de se ressentir que nous pouvons, à n'importe quel moment, s'adresser au Seigneur et de savoir qu'il nous écoute et qu'il nous entend. C'est ça la chose réelle. Et c'est ça que les chrétiens manquent aujourd'hui. Dieu paraît si loin. Pourtant, il prie. Mais quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on réalise qu'en plusieurs occasions, il priait. Et la parole de Dieu nous enseigne même comment il priait, qu'est-ce qu'il disait, et comment Dieu agissait. Ils étaient dans les situations les plus difficiles. Ils s'arrêtaient, ils priaient au Seigneur et Dieu répondait. Ils n'étaient pas parfaits, ces gens-là. Non, ils n'étaient pas parfaits. Mais ils savaient. Ils savaient mettre devant le Seigneur leurs différends. Ils savaient s'humilier, ils savaient pardonner, ils savaient relâcher. Ils savaient se repentir, ils savaient être restaurés dans leur cœur. Ils laissaient le Seigneur restaurer leur cœur. Ils ne vivaient pas sous l'accusation, la culpabilité ou la condamnation. Leur vie était claire, il y avait une communion claire entre eux et le Seigneur. Communion claire. Une liberté dans leur communion avec le Seigneur. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens ne vivent pas cette réalité. Ne vivent pas cette réalité. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit en livre des Actes au chapitre 4. Au verset 23, la Bible nous dit, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs, raconter tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Au verset 27, ils dirent, en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Ils étaient persécutés. Persécutés pour l'évangile qu'ils défendaient. Ils défendaient la vérité de l'évangile. Et ils disent, Seigneur, vois leur menace. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Au milieu de la persécution, ils savaient que Dieu les entendait. Leur vie, ils savaient que leur vie ne les appartenait pas. Ils avaient donné leur vie. Quand ils eurent prié au verset 31, le lieu où ils étaient ensemble, assemblés, trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils parlaient à Dieu, Dieu entendait, Dieu répondait, Dieu agissait. Amen. Leur relation était claire. Il n'y a pas de « je croyais peut-être, est-ce qu'il m'entend ?» Il faut que nous puissions être assurés dans notre cœur qu'il n'y a aucun obstacle entre Dieu et nous. Qu'il n'y ait aucun obstacle. Alors, je crois qu'on a compris pendant ces trois dernières soirées que ça n'avait rien à voir avec la chute, parce que dans la chute, il y a la restauration. On est d'accord avec ça? Et quand on est sincère avec le Seigneur, il nous restaure dans la chute, après la chute. Et c'est ça qui est important. C'est d'avoir accès au trône de Dieu. C'est pas religieux. C'est pas parce que la Bible dit. C'est parce que finalement, il n'y a aucun obstacle entre Dieu et nous. Ça, c'est la réalité. C'est parce que nous avons été pardonnés. C'est parce que nous avons vécu une repentance vraie. Parce que dans cette repentance, il y a eu une œuvre de Dieu dans notre cœur. Il y a eu un brisement. C'est pas religieux. C'est pas un principe, c'est pas une technique. Et c'est ce que ses disciples vivaient. Je suis sûr qu'ils prenaient le repas du Seigneur, la Bible nous dit tous les jours. Tous les jours, ils mettaient leur cœur en ordre. Absolument. On ne peut pas prendre le repas du Seigneur si notre cœur transporte de la haine ou de non-pardon envers un frère ou une sœur. Non. C'est là où l'importance de partager le repas du Seigneur entre nous, c'est de s'assurer, quelque part, qu'avant d'aller plus loin, on a réglé nos différends. On a permis au Seigneur de nous restaurer. On est d'accord? Et quand c'est comme ça, il y a une liberté entre nous. Il y a une liberté. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas d'accusation. Et c'est ce qu'il vivait. Et en plusieurs occasions, vous allez voir qu'il est écrit que dans les moments les difficiles, il priait. Il priait parce qu'il savait que Dieu entendait. Il priait parce qu'il n'y avait aucun obstacle dans leur cœur entre eux et Dieu. Il y avait une communion avec le Seigneur. Et il y avait une communion vraie entre les frères et les sœurs. Et il faut qu'on comprenne, mes frères et sœurs, si on sent qu'il y a des choses dans l'esprit qui ne sont pas claires, c'est que quelque part, il y a des cœurs qui ne sont pas réglés. C'est simple comme tout. Vous avez les choses de l'esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on comprend. C'est pourquoi on peut entrer quelque part, on peut entrer dans une église, on peut entrer dans un environnement et on ressent. Dans l'esprit, on ressent. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et qu'on peut témoigner dans l'esprit de quelque chose qui est réel sans même de l'avoir vu. Parce que c'est spirituel. C'est spirituel, ces choses-là. On n'a pas besoin d'avoir une description de ce qui vient de se passer. On peut rentrer dans une maison demain matin et de savoir qu'il y a eu un problème. On peut savoir qu'il y a eu une bagarre. On peut savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Oui ou non? Mais entre nous, frères et sœurs, c'est la même chose. On peut savoir, on peut ressentir. C'est pourquoi quand il n'y a pas une unité dans l'esprit, c'est que quelque part, il y a un problème dans les cœurs qui n'a pas été réglé. Il n'y a pas eu de repentance, il n'y a pas eu de pardon, il n'y a pas eu de sincérité. Il n'y a pas eu de restauration. Et quand il n'y a pas de restauration, qu'est-ce qui se passe?
Les choses sont bloquées dans l'esprit. Il ne faut pas donc trouver de rôle si le courant ne passe pas. Il ne faut pas trouver de rôle s'il n'y a pas une communion fraternelle libre. Ouais. La chose à faire, c'est d'être restauré. De laisser le Seigneur nous restaurer. Et là, on goûtera de nouveau à une liberté dans l'esprit. À une liberté dans notre communion avec le Seigneur, à une liberté dans notre communion les uns envers les autres. C'est le drame de l'Église aujourd'hui. C'est de témoigner et de voir les chrétiens se battre. Ouais. C'est triste, mais c'est la vérité. Mais le Seigneur nous appelle à une unité, une liberté dans notre communion. Vous voyez, mes frères et sœurs, demain, on peut être bien aujourd'hui. On peut être bien dans une communion de l'esprit, claire. Mais demain, cette liberté peut être brisée. Demain, tout à l'heure, dans une heure, dans deux heures. Elle peut être brisée. Pourquoi il faut s'assurer, même qu'on puisse chuter, on cherche la restauration de Dieu pour retrouver la même liberté. On est prêt aujourd'hui, on est loin de main dans l'esprit. On est prêt dans notre cœur, dans l'esprit aujourd'hui. Demain, on peut être loin. Et demain, on peut avoir rien à se dire. Aujourd'hui, on peut avoir tout à se dire. On peut partager les choses du royaume de Dieu, de l'Église, notre vie, ce qui se passe autour de nous. Et demain, on ne peut rien avoir à dire. Il y a comme un mur. Le courant ne passe plus. Et moi, je veux vous encourager à vivre tout ce qu'on partage. Et elle ne peut être vécue que sur le chemin de la croix, quand on est prêt à perdre notre vie. Amen. C'est pourquoi on retourne à la croix à chaque fois. On retourne au message de la croix à chaque fois, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre issue pour une communion fraternelle, riche, libre. Il n'y a pas. Si tu tombes et que tu ne veux pas t'humilier et te repentir, la communion dans l'esprit entre nous est brisée. Ce n'est pas que j'ai plus d'amour pour toi. Non. Ce n'est pas que je ne t'aime plus et que je ne te respecte plus, mais quelque part dans l'esprit, il y a un blocage. C'est pourquoi le chrétien ne peut pas vivre dans le monde. Parce qu'il n'y a pas de communion dans l'esprit. Et vous avez remarqué ce que l'apôtre Pierre, la première chose qu'il a dite dans le chapitre 2, verset 40, il dit, après, et par plusieurs autres paroles, nous avons lu, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. On ne peut pas avoir de communion entre la lumière et les ténèbres. On peut respecter les gens, on peut les aimer pour qui ils sont, mais on ne peut pas vivre la même vie. C'est pas possible. On ne peut pas communier avec les ténèbres. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de témoigner, c'est qu'ils ressentent l'amour que nous portons dans notre cœur, l'amour du Seigneur. Et la Bible nous dit au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés,
Et ils persévéraient ensemble. Ce n'était pas tout le monde là. C'était ceux qui avaient accepté la parole, ceux qui étaient nés de nouveau. Donc maintenant, il y avait une porte ouverte pour une communion d'esprit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui essayent de communier dans l'esprit, mais quelque part dans leur cœur, ils marchent dans le péché, ils marchent selon la chair. Et au bout de la course, il n'y a aucun fruit. Il n'y a aucune vie. Ils ne peuvent même pas s'encourager les uns les autres. C'est pourquoi la croix de Jésus-Christ est l'élément. L'élément qui va emmener l'unité au milieu du peuple de Dieu. Et rien d'autre. Rien d'autre. Et quand on comprend qu'est-ce que c'est que la croix de Jésus-Christ, on réalise que ceux seulement qui veulent perdre leur vie et permettre au Seigneur de transformer leur vie sont ceux qui marcheront dans l'unité de l'esprit. C'est simple comme tout. N'allons pas chercher autre chose. C'est pourquoi il doit y avoir un retour. Un retour vers la croix. Un retour vers l'évangile de la croix. Et c'est ça que les disciples de la première église entendaient, vivaient tous les jours de leur vie. Ils tombaient, ils se relevaient. L'esprit de la nouvelle alliance régnait au milieu d'eux. Ce n'était plus l'esprit de l'ancienne alliance. L'esprit de la nouvelle alliance. Alléluia. Moi, je suis heureux de savoir que mes péchés sont pardonnés. Quand je me repens, Dieu ne se souvient de rien. Vous savez que la chrétienté est unique. Elle est unique. Unique. C'est pourquoi la chrétienté ne rentrera jamais dans le système écuménique. Ne pourra pas entrer dans le système écuménique. Parce qu'elle est unique. C'est la seule vérité qui prend compte le péché de l'homme. La seule. C'est pourquoi la chrétienté ne peut pas se mélanger avec les ténèbres. On trouvera drôle qu'on ne puisse pas entrer en communion avec tout un système qui n'est pas dans la lumière. On ne peut pas entrer en communion avec des hommes et des femmes qui ne veulent pas perdre leur vie, qui veulent s'adhérer à simplement une religion. Jésus n'est pas venu installer une religion. Il est venu installer une relation avec lui. Des hommes qui sont prêts à perdre leur vie, qui sont prêts à s'humilier, qui sont prêts à se renier soi-même. Donc il n'y a pas de possibilité d'unité. Il n'y a pas. C'est pourquoi la chrétienté sera toujours persécutée. Toujours persécutée. Vous savez, il y a des gens qui me disent, dans mon pays, pourquoi tu ne donnes pas ton opinion à gauche et à droite? Pourquoi est-ce que tu n'écris pas dans les journaux? Pourquoi est-ce que tu... Mais pourquoi? Essaye de te faire comprendre, non? On ne sera jamais compris de toutes les manières. Jamais. Jamais. On peut exprimer la vérité, on ne sera jamais compris. Parce qu'on n'explique pas la vie chrétienne, on la vit. Amen. Ou tu la vis, ou tu ne vis pas. C'est simple comme tout. Et c'est pourquoi quand on lit le livre des Actes des Apôtres, les chrétiens étaient continuellement persécutés. Continuellement persécutés, accusés faussement dans tout ce qu'ils faisaient. tout ce qu'il faisait. Un matin, avec l'amour du Seigneur, vous allez donner un pain à un pauvre. On vous dit que vous allez donner un pain empoisonné. Ah ben c'est comme ça. La chrétienté, c'est comme ça. Ne croyez pas que vos bonnes œuvres vont être saluées par le monde. Non. Jésus n'a jamais été salué par quiconque. Il a été traité de voleur, d'assassin. Il a été traité de démon. Il a été traité de tout. Pourtant, tout ce qu'il a fait, il a fait du bien. Il n'a jamais maltraité quelqu'un. Il n'y a jamais une seule mauvaise parole qui est sortie de sa bouche. Il avait le cœur de Dieu. Il portait les sentiments de Dieu. Il avait tout pour que les hommes acceptent. Il avait tout pour que les gens l'acceptent. Il n'y avait rien de mauvais en lui. C'est pourquoi Jésus a dit, si j'ai été haï, vous serez haï dans le monde de la même manière. Pourquoi ? Parce que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. C'est pourquoi tant que l'esprit d'unité règne au milieu de nous et qu'il y a une liberté dans la communion fraternelle, réjouissons-nous. Réjouissons-nous parce que c'est unique. C'est unique. Mais il y a un point à régler. Il y a un seul point à régler. C'est le chemin sur lequel on marche. C'est la décision de prendre le chemin qu'il faut. Et on retrouvera l'unité sur cette route. Garantie. Ne cherchons pas l'unité avec le monde. Ça, 0 sur 10. Vous n'en trouverez pas. N'essayons pas de chercher l'acceptation du monde. Non. N'essayons pas d'expliquer les choses. Non. Moi, je dis toujours, quand la persécution arrive, vous savez, moi, j'ai vécu, ceux qui connaissent Maurice, à Tamarin. J'ai pris des vagues toute ma vie. Dans la baie de Tamarin, j'habitais à 150 mètres. Et moi, je sais que quand je prenais les vagues, des monstres, c'était, je ne sais pas moi, 4 mètres de haut, sans surf, sans rien à cette époque. Je sais quand cette grosse vague arrivait, que ça allait écraser sur moi, j'avais une seule chose à faire, c'est de couler. Je coulais, j'attendais la vague passer, ça me remuait un petit peu, et puis je ressortais derrière. Et j'essayais de prendre la prochaine pour rentrer sur la plage. Mais quand la persécution fait rage, quand les gens vous accusent, vous avez une seule chose à faire, taisez-vous, avalez. Coulez, laissez la vague passer et le Seigneur sera glorifié dans ce que vous faites. C'est simple comme tout. C'est simple comme tout. Il n'y a pas de nécessité de se défendre. On ne peut pas se défendre. C'est Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot. On n'a pas été fabriqués, nous les chrétiens, pour vivre une vie cool dans ce monde. Ah, absolument. Vous n'avez qu'à lire les livres des Actes des Apôtres et vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est devenu de ces hommes. La plupart du temps, il n'y avait que des problèmes. Il n'y avait que ça. Mais il y avait des grandes choses aussi qui se passaient. Il y avait la victoire, il y avait des miracles, il y avait des prodiges, il y avait des changements de vie, il y avait des conversions. Il y avait des choses merveilleuses qui se passaient. C'est pourquoi notre vie, nous, mes frères et sœurs, elle n'est pas d'ici. Notre vie, c'est un jour dans l'éternité avec le Seigneur. Ici, c'est rien du tout. L'apôtre Paul nous dit, les souffrances du temps présent n'ont rien à se comparer avec la gloire à venir. C'est pourquoi ce qui est important pour nous, que nous puissions préserver cette unité de l'esprit entre nous. Préserver cette liberté dans la communion avec le Seigneur et cette liberté dans notre communion les uns avec les autres. C'est ça qui parle plus fort. Ça parle plus fort que n'importe quoi. N'importe quoi. C'est pourquoi l'amour du Seigneur dans notre cœur est suffisant pour que les autres voient que nous sommes les disciples du Seigneur. C'est ça ou non? Pour cela, il faut continuer sur le chemin de la croix. Et puis on attend. On attend les choses venir. Mais nous, on reste dans la paix. On reste dans la paix, on est heureux, on est content, on a une joie que le monde ne peut pas avoir, on a une paix que le monde ne peut pas avoir. Ça ne s'achète pas. Vous pouvez être millionnaire, vous ne pouvez pas avoir. Vous pouvez posséder le monde entier, vous n'aurez pas la paix que Jésus donne. vous n'aurez pas la joie du Seigneur dans votre cœur. Vous savez, la chrétienté, ce n'est pas que des problèmes. Hein. C'est pas que des problèmes. Mais il y a une joie intérieure, il y a une paix intérieure. Hein, il y a une communion, il y a une communion extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire. Il y a une restauration de relations. Vraiment extraordinaire. Qui aurait dit qu'on aurait pu s'asseoir ensemble, hein, des gens de toute couleur, de toute race, de toute culture, et de pouvoir vivre l'amour du Seigneur ensemble. Qui c'est qui aurait pu croire à ces choses pareilles? C'est impossible. Dans le monde, il n'y a que du racisme. C'est tout ce qu'il y a. Même si ce n'est pas parlé, c'est à l'intérieur du cœur de l'homme. C'est partout dans le monde. Partout, partout, partout. Nous, notre pays, c'est le pays de l'arc-en-ciel, qu'ils disent. Le pays de l'arc-en-ciel, mais il y a des bombes qui sont en train de se former en dessous, on ne sait pas où ça va emmener. Hein? Le chrétien, le touriste arrive, il va dans notre pays, s'assied sur la plage, il bronze, et puis il mange bien, et puis il rentre chez lui. Il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est partout dans le monde pareil. Pareil. C'est une course après le pouvoir, une course après de l'argent, une course après essayer de s'approprier les choses. Mais non, non, la chrétienté, c'est tout en notre esprit. C'est tout en notre esprit. Elle est basée sur l'amour de Jésus-Christ, l'amour qui gagne nos cœurs de plus en plus. C'est pourquoi on meurt pour porter la vie. Dans le monde, c'est le contraire. On vit et puis on meurt. Nous, c'est le différent. Nous, on meurt à soi-même et puis on transporte la vie de Christ. C'est extraordinaire. C'est pourquoi le monde ne peut pas comprendre ces choses-là. Le monde ne peut pas comprendre ces choses-là. C'est pourquoi il vaut mieux se taire et laisser vivre. Et garder un cœur pur. Garder un cœur pur. Amen. Et si on ne peut pas garder un cœur pur, là, entre nous, mais comment est-ce qu'on va garder un cœur pur avec des gens qui nous accusent, qui nous persécutent, hein, qui en veulent à notre vie? C'est vrai. Ils en veulent à notre vie. Moi, dans l'île Maurice, un jour, ils croyaient que j'étais un Sud-Africain. Ils croyaient que j'étais un Sud-Africain chez moi. Ouais. Et ils voulaient me mettre dehors de l'île Maurice. Beaucoup de personnes ne savent pas ces choses-là. Absolument. Mais quand ils ont vu que j'avais un passeport mauricien, ils sont restés tranquilles parce que j'étais une menace pour eux. Ma vie était une menace pour eux. Ce que je crois est une menace pour les gens. Ouais. C'est une menace pour les pouvoirs religieux. C'est comme ça dans tout le monde entier. Je ne parle pas de moi, je parle de n'importe qui. Si vous vivez la vraie chrétienté, vous serez une menace. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Je ne suis pas un Sud-Africain, moi, je suis un vrai Mauricien. Ouais. Mais moi, je veux vous encourager ce matin. Chacun a ses histoires, chacun a sa vie. Moi, je veux vous encourager à garder l'esprit de la nouvelle alliance, l'unité dans la communion fraternelle, l'unité et la liberté dans notre communion avec Jésus. Amen. La chose la plus précieuse qui puisse exister, de savoir qu'il m'entend, savoir qu'il m'écoute, savoir que quand je suis dans le trou, là-bas où personne ne voit, tout seul, je peux lui parler. Je peux lui parler. Je peux ressentir sa présence. On n'achète pas cette chose-là. On n'achète pas cette chose-là. Donc ce matin, on est fiers d'être un enfant de Dieu. Alléluia, on est fiers. Fiers, honorés d'avoir goûté à la grâce du Seigneur. D'avoir goûté à la grâce de Jésus-Christ. C'est un honneur. C'est un honneur, malgré toutes les difficultés de la vie, tout ce qu'on peut avoir, c'est un honneur. Un honneur.
C'est pourquoi quand on lit le livre des Actes des Apôtres et qu'on voit tous ces frères et sœurs qui ont vécu la réalité de l'Évangile, on est fiers. Fiers de ces hommes. Fiers de ces femmes. Quand vous lisez le 11e chapitre du livre des Hébreux qui parle de la foi, hein, et que vous lisez la foi de ces hommes et ces femmes, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Ouais. N'êtes pas fiers. Fiers d'eux. Ils ont marché avant nous. Ils ont porté le flambeau de la chrétienté. Ils ont porté le flambeau de la foi. Et aujourd'hui, ils sont les exemples pour nous, afin que nous puissions continuer à vivre la vraie chrétienté. Amen. On se lever ce matin. Nous remercions le Seigneur. Alléluia. D'avoir une famille si merveilleuse. D'avoir l'Évangile qui unit nos cœurs. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de distance. À 10 000 kilomètres, on se sent de la même famille. À 15 000 kilomètres, on sent qu'on est unis. Qu'on a un même cœur. Alléluia. Et qu'on transporte le même évangile. C'est ça qui est merveilleux. Alléluia. Et comme Paul dit, quand il y a un qui souffre, tous souffrent ensemble. Hein? Quand il y a un qui se réjouit, tous se réjouissent ensemble. Alléluia. Merci Seigneur pour la famille qui nous donne. C'est un cadeau extraordinaire. C'est une grâce extraordinaire. Cela emmène la joie dans nos cœurs. Alléluia.
Merci d'avoir écouté ce message. Nous espérons que vous avez été encouragé. Si vous souhaitez nous contacter, veuillez écrire à l'adresse suivante. CTMI, boîte postale 259, Curepip, Île-Maurice. Notre adresse email, info@reseauctmi.org, ou encore sur notre site internet réseauctmi.org. Que la grâce de Dieu continue à vous fortifier et que Dieu vous bénisse.